Messieurs les abbés, mesdames, messieurs, on m'a proposé donc de vous parler aujourd'hui des racines de l'Occident. Et le point de départ que je voudrais vous proposer à cette réflexion, c'est la crise que traverse aujourd'hui l'Occident. Une crise qui est extraordinairement grave, qui pourrait être fatale d'ailleurs. Crise dont à peu près tout le monde a conscience, mais si l'on y réfléchit un peu, dont les aspects les plus graves sont généralement les moins perçus. C'est ainsi, par exemple, que tout le monde a parfaitement conscience du fait que nous traversons une crise économique, mais déjà à ce premier niveau, on ne voit pas l'essentiel. La crise économique, pour les uns, pour les autres, c'est d'abord le chômage. Or, le chômage n'est qu'un des signes de la crise, de même que les boutons rouges qu'on a ou les plaques rouges que l'on a en cas de rougeole ne sont que les signes de l'infection. Car on l'oublie souvent, la finalité de l'économie, ce n'est pas de produire des emplois, mais de produire des richesses. Ce sont des évidences qu'on rougit d'avoir rappelées, mais qu'il faut tout de même de temps en temps rappeler dans ces temps où les évidences sont totalement oubliées. Il y a des signes beaucoup plus graves et il y a plutôt une réalité beaucoup plus profonde de la crise économique. C'est quand on regarde ce que produit le système économique. Il est très frappant de voir que les productions qui sont les nôtres aujourd'hui correspondent très souvent à un désordre. On peut prendre plusieurs exemples. On a fait des progrès techniques extraordinaires. Regardez par exemple ce qu'on fait en matière de télévision. Puisqu'aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut arroser avec un même programme un continent entier. Regardez la qualité technique des images, regardez la qualité technique du son avec la technique, par exemple, la technique digitale. Tout ce qu'on pourrait faire de bien avec ces techniques, que d'ailleurs le pape Pie XII avait très bien entrevu en son temps. C'est vrai qu'avec un disque laser, on peut mettre du grégorien, on peut mettre de la belle musique, et on peut mettre de la musique satanique. Pareillement avec la télévision, on peut proposer des spectacles qui élèvent l'âme, mais on sait bien que ceux qui passent le plus fréquemment sont des spectacles avilissants. Donc ça, je crois, est beaucoup plus représentatif de la crise économique, à savoir que le système économique tout entier est désordonné. Et puis, si l'on va un peu plus profond, derrière cette crise économique que tout le monde voit, il y a une crise politique que souvent on ne perçoit pas, ou que l'on perçoit mal, du moins, et dont souvent, d'ailleurs, on a une idée totalement fausse. Par exemple, cette alternance qu'on observe un peu dans tous les pays d'Europe, les partis qui sont au pouvoir sont remplacés par d'autres partis pratiquement à chaque élection. Et certains disent que cette alternance, c'est le signe de la vitalité de la démocratie. Mais si l'on y songe, si l'on connaît un peu la politique dans le long terme, on sait que les hommes ont tendance à vouloir conserver les mêmes gouvernements. Et si les gouvernements changent, c'est un signe de malaise. Par exemple, la France, de 987 à 1792, n'a connu qu'une seule dynastie, la dynastie capétienne, soit pendant 800 ans, si je compte bien. Et ça, c'est naturel. Naturellement, les gens ont envie de garder, de conserver leur gouvernant. Et s'ils changent de gouvernant, c'est qu'il y a une crise profonde. Autre exemple, celui-ci est plus connu, mais là encore, il n'est, je crois, pas perçu dans toute sa profondeur. C'est la corruption généralisée. C'est vrai que la corruption est de toutes les époques, et y compris de grands hommes d'État se sont enrichis en passant aux affaires. On parle de Mazarin et peut-être aussi de Richelieu. Du moins, cela se servait-il, mais nous servait-il bien. Mais c'est vrai que tout homme qui voit passer des sommes très importantes est tenté éventuellement d'en prendre une partie. Ça n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la corruption est pour les hommes qui sont au pouvoir le seul moyen de se maintenir au pouvoir. Et c'est lié avec ce que je disais précédemment. Comme ils ont peur de perdre le pouvoir, eh bien, ils essayent de s'approprier l'argent public pour, grâce à cet argent public, se faire des amis, comme l'intendant de la parabole, se faire des amis avec du mauvais argent, de manière à se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, on voit bien comment les choses ont évolué ces dernières années. Pendant longtemps, ça a été la corruption au sens le plus strict du terme, les affaires Carignan, Noir et compagnie. Et aujourd'hui, la corruption a pris une forme différente. C'est le clientélisme, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'argent public pour se payer des affiches et du matériel électoral, avec l'argent public, on se fait des amis en payant tout et n'importe quoi, ce qui explique l'explosion des prélèvements obligatoires dans ce pays. Car si l'on regarde les chiffres, on se rend compte que les prélèvements de l'État n'ont pas tellement augmenté, ils ont plutôt tendance à diminuer. Ce qui augmente, ce sont d'une part les prélèvements sociaux et aussi et surtout les prélèvements des collectivités locales. Et puis enfin, troisième étage de la crise, évidemment là c'est le plus profond, c'est la crise morale. Cette crise morale, on en voit d'abord un signe extrêmement palpable à travers la crise démographique. La démographie, c'est l'étude des populations d'un point de vue quantitatif, mais plus profondément, c'est l'étude des mentalités. De ce point de vue, ce qui est très frappant, c'est que quand on interroge les gens sur le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir, et quand on regarde le nombre d'enfants que les populations ont effectivement, on a très souvent une différence sensible. Ou du moins, il y a une différence sensible quand on regarde individu par individu. Il y a des familles qui déclarent vouloir avoir beaucoup d'enfants et elles n'en ont pas beaucoup, et inversement, des familles qui ne voudraient pas en avoir beaucoup et qui en ont un certain nombre. Et donc, ce qui est intéressant dans l'étude démographique, c'est que là, on mesure les mentalités. Par exemple, les gens peuvent dire qu'ils sont contre le divorce, mais on voit bien dans les chiffres s'ils divorcent ou non. Ils peuvent dire qu'ils sont contre l'avortement, mais on voit bien s'il y a des avortements ou non. Donc, le grand intérêt de cette discipline qui est la démographie, et c'est pourquoi j'en parle personnellement souvent dans mes activités politiques et aussi dans l'enseignement, c'est que la démographie permet de mesurer véritablement les mentalités. Si vous regardez, par exemple, les courbes démographiques au cours de ces dernières décennies, vous voyez qu'en 1964, il y a un infléchissement très sensible des différentes courbes, et en particulier de la courbe de la natalité. Et on voit là qu'il y a véritablement une crise des mentalités qui apparaît. Et cette crise des mentalités, on en prendra conscience 4 ans plus tard, ça sera l'explosion de 1968. Et donc, ces évolutions démographiques, cet effondrement démographique, il faut bien le dire, est le signe d'une crise très profonde. D'une crise qui est d'abord celle du refus de la vie. Mais je crois que plus profondément encore, c'est une crise qui marque une certaine fascination pour la mort. Car les chiffres de l'avortement, on les connaît plus ou moins. Officiellement, nous en parlions tout à l'heure, 200 000 pour la France. Sans doute bien davantage. On doit, à mon avis, chaque année, être peut-être plus près du demi-million. Mais pour le monde entier, d'après les chiffres que l'on connaît, ce serait 40 millions d'avortements chaque année. C'est-à-dire pratiquement un pays comme la France qui est génocidé, disons le mot. Car il s'agit là d'un véritable génocide pratiqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, puisque je parle de génocide, comment ne pas parler du génocide avec un petit g sans évoquer le génocide avec un grand g? Je crois que cette obsession à parler du génocide avec un grand g, c'est aussi, entre autres, le signe de cette fascination pour la mort. Je crois, somme toute, qu'il y a une certaine délectation chez un certain nombre de nos contemporains de revoir indéfiniment ces images des camps de concentration, ces corps efflanqués, ces morts abominables. Alors, je disais en commençant, il y a une crise de l'Occident. Pourquoi de l'Occident? Bien, parce que je crois que dans une assez large mesure, cette crise, elle est limitée à l'Occident, elle est en tout cas propre à l'Occident. Peut-être d'abord faut-il s'arrêter sur cette réalité qu'est l'Occident. À l'origine, on oppose l'Occident à l'Orient. Étymologiquement, l'Occident, c'est là où le soleil se couche, l'Orient, là où il se lève. Ce sont pratiquement les mots latins tels quels, Oriens, Occidens. Mais c'est vrai que c'est très relatif, l'Orient et l'Occident, ça dépend où on se trouve. Selon que vous êtes à Paris, à New York ou à Tokyo, évidemment, l'Orient et l'Occident se déplacent. La réalité pour nous, elle remonte finalement à l'histoire romaine, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Les Romains, qui étaient des gens pragmatiques, après avoir conquis tout le pourtour méditerranéen, se sont rendus compte que cet espace était trop grand pour une seule direction. D'ailleurs, c'est un grand enseignement pour aujourd'hui, pour les apprentis sorciers qui veulent faire l'Europe. On a déjà l'exemple dans le passé, on voit que ces grands empires, ces grands ensembles, très rapidement s'avère trop grand pour une seule direction. Et donc les Romains, à plusieurs reprises, ont fait la tentative de diviser l'Empire, et finalement, un partage a été le dernier. C'est le partage selon lequel, qui se fait donc à la fin du IVe siècle, en 395, on trace une ligne droite qui est juste à l'est de la péninsule italienne, juste à l'est. Tout ce qui sera à l'est de cette ligne fictive, ce sera l'Orient. Tout ce qui sera à l'ouest, ce sera l'Occident. Et on aura ainsi les deux empires, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Cette ligne, elle se poursuit vers le nord, mais également vers le sud. Et c'est ainsi que les pays du sud de la Méditerranée font partie, selon le cas, de l'Empire d'Orient ou de l'Empire d'Occident. Et donc on va trouver à l'Occident la Gaule, on va trouver l'Italie tout entière, on va trouver l'Espagne, on va trouver, c'est intéressant, une partie de la Yougoslavie. C'est intéressant parce que la ligne de partage se trouve en Yougoslavie actuelle. Et au moment de la guerre, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais quelqu'un m'en avait fait la remarque, au moment de la guerre, eh bien, le front va se situer à peu près sur cette ligne qui remonte à Rome, ce qui montre bien, au passage, l'importance de ce passé. Cet empire romain d'Occident, il va disparaître assez vite, puisque j'ai évoqué ce tracé à la fin du IVe siècle. C'est dans la deuxième moitié du Ve que sombre Rome, en 476, date très importante dans l'histoire de l'Europe. En revanche, l'Empire d'Orient, lui, va survivre un millénaire à l'Empire d'Occident. Et là aussi, permettez-moi au passage de tirer une leçon politique, parce que je crois qu'elle est capitale, et ce sont des choses qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire et d'entendre. Si l'Empire d'Orient a tenu, c'est pour un certain nombre de raisons, mais parmi ces raisons, c'est la volonté politique de certains empereurs, et je pense en particulier à Justinien. Un homme comme Justinien a eu la volonté politique de refaire un grand empire, et il a pratiquement réussi à refaire cet empire. Ça, c'est très important parce que dans nos milieux en particulier, nous sommes souvent pessimistes et nous avons des raisons de l'être. C'est vrai que quand nous contemplons le tableau que j'ai brossé tout à l'heure rapidement, du point de vue de l'économie, de la politique, de la morale, c'est vrai qu'on a du souci à se faire. Il y a des raisons objectives d'être pessimistes. Mais cela ne doit pas nous amener à nous décourager. Il faut savoir que quand il y a une volonté politique, eh bien, on peut inverser le cours de l'histoire. Et je pense que d'une certaine façon, l'histoire de ces deux empires, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, le démontre. Quand il y a eu la volonté politique, eh bien, la décadence a reculé. Alors, c'est vrai que l'Empire d'Orient a fini aussi par être conquis. Et il est tombé sous le coup des Turcs, c'est vrai, en 1453. Mais c'est vrai aussi que plusieurs siècles ont été gagnés et que s'il y avait eu la même volonté politique quelques siècles plus tard, peut-être que cet empire n'aurait pas sombré. Donc, on peut, en première approche, dire que l'Occident, c'est cette partie qui se trouve autour de cette ligne, à la gauche de cette ligne, quand on regarde une carte, à la gauche de cette ligne, qui elle-même passe à la droite de la péninsule italienne. À la vérité, on sait bien que l'ensemble occidental, c'est une civilisation, que cette civilisation embrasse, pour l'essentiel, l'Europe, mais que cette civilisation a rayonné bien au-delà de l'Europe. Et ça aussi, c'est un enseignement important. L'Europe, l'Occident ont porté leurs valeurs au monde. Les bonnes, mais aussi malheureusement les mauvaises, mais c'est vrai quand même que l'Occident a dominé le monde. Et c'est vrai que des pays, par exemple, comme le Japon, ont été profondément marqués par la culture occidentale, même si, je vais y revenir, ils ont gardé une spécificité. L'Amérique aussi a été profondément marquée par cette Europe, pour de multiples raisons que vous connaissez, sur lesquelles je ne m'étends pas. En revanche, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette crise est bien une crise du monde occidental. C'est bien l'Occident qui est frappé par cette crise, parce que le reste du monde, ou bien il n'est pas concerné par la crise, parce qu'au fond, il n'a jamais connu le développement de la civilisation, et donc il est resté toujours à un niveau tel qu'il ne connaît pas spécialement de crise, ou bien il connaît aujourd'hui, à la différence de l'Occident, une relative renaissance. Je pense en particulier au sud de la Méditerranée, avec la renaissance de l'islam. Car, objectivement, il y a bien une renaissance islamique. Cela se voit, par exemple, par les conversions qui se font, les conversions individuelles à l'islam, y compris chez nous. On n'entend jamais dire qu'un musulman se soit converti à l'islam en pays musulman, alors qu'il y a des catholiques, des chrétiens qui se convertissent à l'islam chez nous. Et puis on voit, quand on regarde les cartes, on voit que le nombre de musulmans, dans les pays d'Afrique en particulier, est en augmentation. On voit que, du point de vue de la culture, l'islam progresse. En particulier dans les milieux de l'immigration en France, on voit souvent un retour à la religion. Et précisément, ceci est au cœur du sujet que je traite ce soir. Parce que, alors que l'Occident abandonne ses valeurs, alors que l'Occident a perdu ses valeurs, on voit l'Orient, ou une partie de l'Orient du moins, retrouver les siennes, se réenraciner. Et c'est ce qui explique, dans une large mesure, ses succès aujourd'hui. On pourrait évoquer ici, Bruno Gollnisch le ferait bien mieux que moi, mais l'exemple du Japon. Le Japon connaît une certaine crise actuellement, mais précisément cette crise démontre au fond tout ce que je vais évoquer ce soir. Pendant longtemps, la force du Japon, ça a été de prendre ce qu'il y avait de bon à l'Occident, dans l'Occident, et en particulier le progrès technique, mais de conserver toute sa structure traditionnelle. Et c'est précisément, je crois, ce qui est en train de perdre le Japon, perdre ses racines traditionnelles. Et dans le même temps, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que le Japon est confronté à de grandes crises dans les trois domaines que j'évoquais tout à l'heure, économique, politique et culturel, moral. Mais restons en Occident, au sens strict du terme. Pourquoi l'Occident est en crise? Je crois parce que l'Occident a perdu ses racines et qu'au fond, les civilisations, comme les hommes, et comme les végétaux, parce qu'il y a, je crois, une unité fondamentale dans la nature, les peuples, comme les hommes, lorsqu'ils perdent leurs racines, s'étiolent, exactement comme les végétaux s'étiolent lorsque les racines tombent malades, et a fortiori lorsqu'elles sont coupées. Et donc je crois qu'il faut aborder cette question d'un double point de vue. D'abord, quelles sont nos racines? Et ensuite, comment ont-elles été coupées? D'abord, quelles sont nos racines? C'est la question de l'enracinement de l'Occident. Si on recherche quelles sont nos racines, d'où nous vient finalement cette civilisation qui est la nôtre, je crois que la manière la plus simple de répondre, c'est en citant trois capitales, comme vous l'avez vu sur le programme de cette conférence, Athènes, Rome et Jérusalem. J'aurais dû dire d'ailleurs, si j'avais respecté la chronologie, Jérusalem, Athènes et Rome. Mais ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai commencé par citer Athènes et Rome, parce que, comme je vais m'efforcer de le montrer, je pense que ce sont les capitales qui ont eu le plus d'influence, finalement, sur notre Occident. Même si l'influence de Jérusalem, je le montrerai aussi, n'a pas été négligeable. Quelle a été l'influence de ces trois villes? Elle est gigantesque. Nous devons à ces trois villes notre langue, notre culture, notre droit, notre politique, notre morale, notre religion. Bref, nous leur devons toute notre civilisation. Avant d'en évoquer le contenu, avant de parler de chacune de ces trois villes, je voudrais tout de même faire deux remarques préalables. Première remarque, de ces trois villes, deux seulement se trouvent en Occident. Puisqu'on parle ici des racines de l'Occident, il faut tout de même noter qu'une de ces trois villes n'est pas dans l'Occident, du moins pas dans l'Occident tel que nous le concevons aujourd'hui. La seconde remarque, et peut-être plus importante ici, c'est que, évidemment, je n'entends pas négliger dans tout ce que je vais dire le vieux fond de civilisation qui est commun à tous les peuples européens, qui est le fond celte. Il s'agit là d'une civilisation authentique. Et en particulier, je pense, en vous parlant, à l'admirable album qui a été publié par Régine Pernoud il y a quelques années sur les Gaulois, et où il y a une très très belle iconographie, où elle montre à travers un certain nombre d'exemples, notamment en matière d'artisanat, d'art même, que les Gaulois étaient une vraie civilisation, une grande civilisation. Mais le fait est, n'en déplaise à certains nostalgiques, que cette civilisation n'étant pas une civilisation de l'écrit, peut-être que les druides étaient dépositaires d'un savoir tout à fait extraordinaire, mais le fait est que rien de tout cela, ou presque rien, nous a été transmis. Et ça d'ailleurs, on peut en tirer un enseignement d'ordre assez général, c'est que une civilisation est importante à deux conditions. D'abord qu'elle soit objectivement importante, c'est-à-dire d'abord qu'il y ait effectivement un certain degré de civilisation qui soit atteint, mais encore faut-il que cette civilisation soit capable de transmettre ce qu'elle a acquis. Il y a de très grandes civilisations, je parlais des Celtes à l'instant, mais on pourrait parler peut-être des Incas, qui ont finalement transmis relativement peu de choses parce qu'ils n'avaient pas les véhicules nécessaires pour les transmettre. Après ces remarques préalables, j'en viens au vif du sujet et à ces trois capitales, et d'abord Jérusalem, puisque là je vais aborder par ordre chronologique. J'ai dit en commençant que, à mon avis, Jérusalem n'avait pas eu autant d'influence sur nous que les autres capitales. Je vais m'en expliquer tout de suite parce que dans la civilisation juive, je crois que tout n'est pas passé dans notre héritage. Nous n'avons pas tout pris dans notre héritage. Il y a, pour dire les choses simplement, je crois qu'il y a une Jérusalem qui est la nôtre, c'est la Jérusalem chrétienne, et puis il y a une Jérusalem qui n'est pas la nôtre, et d'ailleurs qui est tout à fait consciente encore aujourd'hui de ne pas être la mère de la civilisation occidentale. D'abord, je l'évoquais en commençant, il y a une réalité dans la civilisation européenne et occidentale, c'est cette réalité celte. Nous ne sommes pas des sémites. Du moins, dans l'immense majorité des cas, c'est de moins en moins vrai, compte tenu de l'immigration qui se développe. Mais enfin, ce qui a fait la civilisation des pays occidentaux, c'est en termes ethniques, c'est ce vieux fond indo-européen qu'a admirablement présenté Fustel de Coulanges dans la Cité antique, ouvrage dans lequel il montre bien justement la parenté de tous ces peuples indo-européens, et notamment cette vision du monde commune, cette morale commune. Voilà de quoi nous sommes issus. Donc du point de vue ethnique, nous ne venons pas de Jérusalem. Et d'ailleurs, nous n'avons pas, nous, la prétention d'être le peuple élu. Du moins pas au sens où l'entendent les Juifs. C'est vrai qu'il y a tout un discours, notamment sur la mission providentielle de la France, mais nous avons une conception qui est quand même très très différente de ce point de vue de celle que peuvent avoir les Juifs, c'est qu'eux, ils ont une conception qui est véritablement ethnique, puisqu'on entre dans le peuple juif par la filiation, et uniquement par la filiation. Je me rappelle avoir personnellement posé la question à un fils de rabbin que j'avais rencontré voici quelques années. J'avais dit, mais dans l'hypothèse où moi je me convertirais au judaïsme, est-ce que je serais considéré comme un juif autant que toi? Et il m'a répondu, non, pas exactement autant que moi. Ce qui est bien la preuve qu'il y a une vision différente. Alors qu'on peut devenir français, par exemple, par le sang reçu, mais aussi, ça a été vrai de tout temps, par le sang versé. Donc il y a là une différence. Encore une autre différence, c'est que dans les pays occidentaux, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais précisément parce que nous nous sommes coupés de nos racines, dans les pays occidentaux, nous n'avons pas cette vision cosmopolite. Nous considérons qu'il y a des réalités nationales, et contrairement à une sottise qu'on essaye d'accréditer aujourd'hui, ça n'est pas parce que nous sommes attachés à notre nation que nous avons la haine pour les autres. Au contraire, on le sait bien, les gens qui aiment leur famille sont ceux qui sont le plus portés à aller vers les autres familles. Eh bien, pour les nations, c'est exactement pareil. Il y a une famille de nations. Et pour un Français aimer la France, c'est plutôt le moyen de l'amener à aimer d'autres pays plutôt que d'amener à haïr d'autres pays. Ça, c'est une sottise qui a été beaucoup ressassée, mais qui ne correspond à rien de vrai. Assez curieusement, les Juifs, pour des raisons d'ailleurs historiques, ont été les véhicules d'un certain cosmopolitisme, précisément parce que, en vertu de la diaspora, ils ont été répandus dans le pourtour du bassin méditerranéen, dans un premier temps. Ceci d'ailleurs remonte à la fin de la captivité de Babylone, c'est là la première diaspora. Certains juifs reviennent dans leur berceau d'origine, d'autres décident de rester, et puis certains s'en vont un peu dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, ce qui va d'ailleurs avoir des avantages en termes économiques, parce que comme ça les juifs vont retrouver des co-religionnaires, vont retrouver des gens de leur nation, ce qui explique et ce qui facilite le développement du commerce fait par les juifs. Eh bien, ce cosmopolitisme qui est assez inhérent, et j'observe tout ça d'ailleurs de manière totalement neutre, je ne porte aucun jugement, on peut être cosmopolite, on peut se considérer comme le peuple élu, on peut considérer que les sémites sont supérieurs aux Aryens, tout ceci m'est parfaitement égal pour ce que je développe ici, simplement je suis en train de prendre acte de différence, autant de différence qui montre que nous ne sommes pas les héritiers de cette Jérusalem-là. Autre différence encore, le messianisme. Pour nous, le Messie est déjà venu. Nous ne l'attendons plus. Il est là, nous en sommes sûrs. Il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, comme dit le credo, mais il est déjà venu, nous ne l'attendons plus. Et comme nous ne l'attendons plus, nous n'avons pas de raison de désespérer. Car ça, c'est un des traits assez caractéristiques d'une certaine mentalité juive, c'est que comme ils attendent le Messie, et que ce Messie ne vient pas, eh bien, ils ont tendance à désespérer. Et parfois, ce messianisme religieux va se transformer en un messianisme temporel. Et ceci explique d'ailleurs qu'on ait trouvé beaucoup de juifs dans le mouvement communiste. Car dans le mouvement communiste, au fond, ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, c'est un messianisme temporel. Je voudrais d'ailleurs citer à ce sujet un passage d'un livre d'Elie Wiesel, bien connu. Et voilà ce qu'il dit d'un de ses personnages. Selon lui, le communisme était une sorte de messianisme sans Dieu, un messianisme séculier social. Bien, je crois que pour beaucoup de juifs, en effet, le communisme a été un messianisme séculier, un messianisme social, un messianisme politique. Et pourquoi y a-t-il pu avoir ce messianisme? Précisément parce que le Messie ne venait pas. Et au fond, ces juifs qui ont adopté d'une certaine façon la religion communiste peuvent faire penser à ces juifs qui demandent au Christ « Est-ce aujourd'hui que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» C'est finalement, vous voyez, le prolongement d'une certaine mentalité totalement dépassée par le catholicisme, par le christianisme. J'aurais pu évoquer encore un autre point, peut-être plus discutable, mais il n'est pas sans intérêt, donc j'en dis un mot en passant. C'est la question de la mystique de la démocratie. Car dans le monde actuel, et j'en parlais l'an dernier, dans le monde actuel, la démocratie n'est plus un régime parmi d'autres. C'est le régime avec un grand R, avec un grand L. C'est le régime. Et pourquoi c'est le régime? Parce qu'au fond, la démocratie est devenue une véritable religion. Elle est du domaine de l'incontestable, elle est du domaine du dogme. Et là, je pense aussi que les Juifs ont souvent contribué à développer cette idée, parce que, comme le dit leur Dieu, qui est aussi en l'occurrence notre Dieu, ce peuple a la nuque raide, et que la démocratie est, je crois, un régime qui convient bien aux peuples qui ont la nuque raide. Ce sont des peuples qui sont rétifs à toute autorité. Ça n'a pas, là encore, je le dis sans porter de jugement, et si d'aventure cette cassette devait être entendue par un censeur, et Dieu sait qu'aujourd'hui ils sont particulièrement vigilants, eh bien, je le dis sans porter le moindre jugement sur la question. Ça peut être quelque chose de très estimable, après tout, d'avoir la nuque raide. Et d'ailleurs, par bien des côtés, aujourd'hui, on regrette que les Français soient autant des veaux, comme le disait le général de Gaulle, et qu'ils n'aient pas parfois la nuque un peu plus raide pour se révolter quand cela mériterait, il serait nécessaire de le faire. Notre héritage dans cette Jérusalem. Mais il y a quand même beaucoup de choses en commun, et je dirais d'abord l'essentiel. Notre héritage, c'est la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, dans lesquels finalement on trouve le berceau de notre civilisation dans bien des domaines. Cette idée, d'abord, qu'il y a eu un Dieu qui a créé le monde. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'aujourd'hui l'athéisme a fait des progrès, mais nous qui sommes ici, nous qui sommes finalement les héritiers de cette civilisation dont nous recherchons aujourd'hui les racines, eh bien nous ne doutons pas que le monde a été créé. Et même qu'il a été créé par un Dieu. De ce point de vue, d'ailleurs, nous sommes très éloignés de la conception grecque, avec des dieux qui sont en fait très anthropomorphiques, qui se disputent entre eux, ce chaos entre les dieux qui se combattent. Nous pensons, nous, au contraire, qu'à l'origine du monde, il y a une harmonie avec un grand H. Mais nous ne sommes pas des rêveurs, et nous voyons bien le mal dans le monde. Et ceci, la Bible nous l'explique admirablement, parce que dans cette harmonie, dans ce monde que Dieu crée en 7 jours, et à la fin de chaque jour, il voit que tout cela était bon, au moins les 6 premiers, c'est-à-dire tel moment que le 7e, il se repose sur ses lauriers, il avait bien mérité de le faire, eh bien, ce que la Bible nous apprend aussi, c'est qu'après, le mal rentre dans la création par l'homme, ou d'ailleurs plus exactement par la femme. Et c'est d'ailleurs pour ça, soit dit en passant, que le salut, oui, c'est l'apôtre Paul qui le dit, de même que le péché est rentré par la femme dans la création, c'est d'ailleurs pour ça que le salut va nous venir par une femme. C'est pour ça que le bon Dieu, enfin je ne suis pas théologien, mais enfin, je pense que vous savez tout cela. Pourquoi y a-t-il eu la Sainte Vierge? Parce que de même que la femme avait donné le fruit mauvais à l'homme au paradis terrestre, il fallait que la Vierge donne le bon fruit à l'humanité, qu'elle donne le Christ. Le bon Dieu ne passe jamais sur un échec, il faut toujours que la perfection soit en tout. Et donc, le monde est bon, mais il est perverti. Et il est perverti d'abord dans l'homme. Nous sommes là aux antipodes de Jean-Jacques Rousseau, qui explique que c'est l'homme qui est bon et que c'est la société qu'il corrompt. Donc, on voit bien d'ailleurs au passage une rupture, j'y reviendrai tout à l'heure, entre cet héritage qui est le nôtre et le monde tel qu'il existe aujourd'hui, l'Occident tel qu'il est conçu aujourd'hui. J'évoquais cette création en 7 jours, mais regardez comme cela a profondément marqué notre monde, la semaine de 7 jours. Pourquoi la semaine a-t-elle 7 jours? Parce que le monde s'est fait en 7 jours. Pourquoi se repose-t-on le 7e jour? Eh bien parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. On voit même au-delà de la référence religieuse, combien en termes culturels, combien en termes de civilisation nous avons été marqués. Mais nous ne sommes pas seulement marqués par ces premiers chapitres qui relatent la création du monde. Nous sommes marqués par toute l'histoire sainte, et cette histoire sainte, c'est notre histoire. Et en cela, nous sommes bien juifs d'une certaine façon. Nous sommes spirituellement des sémites, comme disait le pape Pie XI, qui d'ailleurs ajoutait, mais s'il le disait aujourd'hui, on le mettrait sans doute en prison, il disait « nous sommes spirituellement des sémites, donc il nous est interdit d'être antisémites ». Cela dit, ajoutait-il, il ne nous est pas interdit de nous défendre. Je crois qu'aujourd'hui, ça nous est interdit. Mais donc, cette histoire sainte, c'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est l'histoire de Noé, c'est l'histoire de Sodome, c'est l'histoire de Jéricho. Et, je m'y arrête un peu plus, c'est l'histoire du sacre des rois. Car ce sacre des rois qui va s'étendre pendant des siècles et des siècles en France, il nous vient directement de l'Ancien Testament. Ce roi qui est choisi par Dieu, qui est oint par un prophète, eh bien finalement on retrouve la trace de cela dans le sacre des rois de France, sacré, comme vous le savez, par l'évêque de Reims. Et j'évoquais d'ailleurs cette histoire sainte, mais cette filiation à Abraham, quand il célèbre la messe, les prêtres le savent, Patriarchae Nostri Abrahae, notre père, le patriarche Abraham. Donc nous nous rattachons effectivement à cette civilisation. Nous ne reprenons pas tout. C'est un héritage, diraient les juristes, sous bénéfice d'inventaire. Il y a ce qui est effectivement aux racines de notre civilisation, et puis il y a ce qui n'est pas à l'origine de notre civilisation. Quoi qu'il en soit, Jérusalem est devenue pour nous une ville chrétienne, et ce christianisme est peut-être la première, et sûrement la première racine, la racine essentielle de l'Occident, ce qui explique d'ailleurs qu'on se soit acharné sur elle et qu'on ait voulu la détruire. Nos compatriotes d'ailleurs, qui sont agnostiques ou athées ou indifférents, confessent ce lien avec la Jérusalem chrétienne dans leur calendrier, dans leur semaine de 7 jours que j'évoquais tout à l'heure, quand ils vont se marier à l'église, quand ils se font enterrer à l'église. Et j'ai encore le souvenir de cette jeune femme, assez agnostique. La malheureuse avait perdu la foi à Lourdes, d'ailleurs. Elle avait une foi un peu vacillante. Vous savez, ça arrive souvent. Quelqu'un dit « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Je crois que c'est Pascal. Je crois qu'on pourrait dire aussi « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas perdu ». C'est l'exemple de Lamartine qui avait une foi vacillante, qui va en Terre Sainte et qui là-bas perd la foi. Et donc cette pauvre femme avait perdu la foi à Lourdes. Mais toutefois, elle disait « en sortant de la mairie, je n'avais pas l'impression d'être marié. En sortant de l'église, j'avais l'impression d'être marié. » Eh bien ça montre à quel point ce christianisme a imprégné notre civilisation. Cette conception d'un mariage sacré, cette nécessité qu'il y a d'un passage devant le curé, de quelque chose de religieux pour vraiment sceller cette union indissoluble entre l'homme et la femme, ça c'est quelque chose qui a marqué toute notre civilisation. La question pourrait se poser ici d'ailleurs, de savoir si on peut parler de civilisation judéo-chrétienne, puisque j'ai évoqué l'Ancien Testament et le Nouveau, faut-il parler de civilisation judéo-chrétienne? Sans doute dans une certaine mesure, mais avec discernement en tout cas. Car comment ne pas voir que le christianisme s'est affirmé précisément, au moins dans une certaine mesure, en coupant sa racine juive. Et de ce point de vue, il y avait un choix décisif à faire, parce qu'il était capital pour tout le reste. C'était le choix de la circoncision. On le voit bien à l'origine de la primitive Église. Toute la question est de savoir si les nouveaux convertis, les païens qui viennent dans le christianisme, doivent passer d'abord par le judaïsme et donc se faire circoncire. Mais évidemment, ça c'est un symbole. Est-ce qu'ils doivent accepter toutes les pratiques juives, tout le rite juif? Et le premier concile, le concile de Jérusalem, répond par la négative. Et ça, c'est sans doute un des actes les plus importants de l'histoire de l'Église. Car si l'Église, je parle évidemment sous le contrôle de théologiens, vous m'arrêtez si je dis une hérésie, d'emblée je vous dis que si c'est une hérésie, je retire tout ce que je dis, parce que je veux être un fils soumis de l'Église. Mais si les premiers chrétiens, si les premiers évêques avait demandé la circoncision, eh bien sans doute le christianisme serait resté une petite secte juive parmi d'autres. Il y aurait eu les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et puis on les aurait appelés je ne sais comment, les chrétiens peut-être, mais ça aurait été une secte juive parmi d'autres. Les premiers apôtres ont parfaitement compris que c'était là une religion universelle qui était créée, comme le Christ l'avait dit, il fallait accueillir tout le monde, et donc il ne fallait pas faire peser sur les nouveaux chrétiens tout ce rituel juif. Et donc l'Église s'édifie en coupant justement, au moins dans une certaine mesure, la racine juive. Et d'ailleurs, les juifs eux-mêmes sont parfaitement conscients de tout cela. J'ai sous les yeux une déclaration faite par un éminent rabbin au journal L'Express, c'était en 1993. Le rabbin en question, c'est le rabbin Yeshua Leibovitz. Il a un très beau prénom, puisque Yeshua veut dire Jésus. Et il dit, le christianisme est tout à fait étranger au judaïsme. Entre les deux religions, le dialogue n'a aucun sens. Et quant à José Eisenberg, qui est celui qui fait les émissions juives à la télévision le dimanche matin, je parle de celle du dimanche matin, il y en a peut-être d'autres que celle du dimanche matin, mais ça c'est une émission qui est estampillée comme telle, judaïsme et christianisme sont incompatibles. Donc c'est vrai que pour un bon nombre de juifs, et même de bons esprits juifs, parce que je ne cite pas des gens qui ne sont pas représentatifs de leur communauté, il y a une rupture entre les deux religions. Et de notre côté, nous devons aussi être conscients qu'il y a une rupture. Je sais que certains voudraient absolument aujourd'hui tout réconcilier. Nous avons un passé commun, nous avons une histoire commune, nous en sommes conscients, nous acceptons tout cela, mais nous avons aussi des différences. Nous n'oublions pas que les Juifs ont excommunié les premiers chrétiens, qu'ils ont persécuté les premiers chrétiens, qu'ils ont essayé d'assassiner, que parfois ils ont tué les premiers chrétiens. Certains en sont morts, comme l'apôtre Jacques, d'autres s'en sont sortis, comme l'apôtre Paul. Il paraît que le Talmud proclame « le meilleur des gentils, tue-le ». Bref, il y a quand même, entre ces deux religions, un certain nombre de différences. C'est pourquoi il faut évoquer ce terme de judéo-christianisme avec modération. Et d'ailleurs, si on va au fond des réalités, il y a quand même un antagonisme absolu sur la conception même de Dieu. Et on verra tout à l'heure que, du point de vue de la philosophie politique, elle est très importante. C'est que le judaïsme, comme l'islam d'ailleurs après la révélation chrétienne, sont des monothéismes stricts, à telle enseigne d'ailleurs que les musulmans appellent les chrétiens des polythéistes, parce qu'ils considèrent que nous avons plusieurs dieux en affirmant la Trinité. Nous savons bien que nous n'avons pas plusieurs dieux, mais nous savons que nous avons un dieu en trois personnes. Alors que pour les juifs, comme je le répète pour les musulmans, c'est vraiment ce dieu unique et solitaire. Et on verra que c'est très important, justement au moment où l'Occident va couper ses racines, précisément il va abandonner ce dieu trinitaire pour revenir d'une certaine façon à un dieu monothéiste. Je crois, pour le dire tout de suite, au moins de manière un peu rapide, que l'idéologie des droits de l'homme, elle se branche directement sur le monothéisme, au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire d'un dieu unique en une seule personne et non pas un dieu en trois personnes. Et au fond, cet homme que l'on divinise au moment de la Révolution française, c'est un homme qui est à l'image de Dieu, mais du dieu monothéiste, ce qui explique l'émergence de cette philosophie individualiste. C'est l'homme seul. Et d'ailleurs, on voit cette idéologie qui va produire tous ces fruits empoisonnés. On va dans une civilisation où les gens sont de plus en plus seuls. C'est Renan qui parlait de ce code civil qui semblait rédigé pour un homme naissant enfant trouvé et mourant célibataire. Mais c'est très exactement cela. Ça a été d'abord la famille patriarcale, puis la famille nucléaire, le papa, la maman, les enfants, puis le papa, la maman, l'enfant, puis le papa, la maman, plus d'enfants, puis le papa remarié avec une autre maman qui est elle-même remariée, etc., et ainsi de suite. Et donc, où au fond, la seule logique que l'on trouve, c'est la logique hyper-individualiste. Et je crois que cette logique hyper-individualiste, elle se branche directement sur un monothéisme strict. Civilisation judéo-chrétienne, peut-être dans une certaine mesure, mais on pourrait autant dire que c'est une civilisation helléno-chrétienne. Car l'influence d'Athènes, et j'y reviendrai tout à l'heure, elle a été directe, mais elle a été aussi indirect, à savoir que non seulement nous avons recueilli l'héritage athénien, mais nous avons recueilli aussi l'héritage grec à travers Jérusalem. Donc non seulement nous avons recueilli directement l'héritage d'Athènes, mais même dans ce judaïsme dont nous sommes les héritiers, nous trouvons déjà la marque athénienne. Et d'ailleurs, Leibowitz, que je citais tout à l'heure, le dit, ce n'est pas du judaïsme qu'est dérivé le christianisme, mais de l'hellénisme. Mais cet hellénisme, c'est déjà l'hellénisme à l'époque du Christ. C'est déjà l'hellénisme avant même le Christ, dans une Jérusalem, dans un État hébreu, qui a été fortement imprégné par la culture grecque, à la suite de l'Empire d'Alexandre. Car Alexandre est allé jusqu'en Égypte, il a lui aussi conquis une bonne partie du bassin méditerranéen, et par exemple Cléopâtre, dont on parle beaucoup, elle descend d'un général d'Alexandre, donc d'un grec. Et cette langue, le grec, est parlée par beaucoup de juifs cultivés, et d'ailleurs une Bible, la Bible qui est utilisée à Alexandrie, c'est une Bible écrite en grec, c'est la fameuse Bible des Septante. Il est d'ailleurs vraisemblable que le Christ lui-même parlait le grec, vraisemblable. Là encore, je pense sous le contrôle des autorités ecclésiastiques, mais on voit notamment l'évangile de Jean, tout le dialogue entre le Christ et Pilate. Donc de deux choses l'une, enfin, trois solutions, ou Pilate parlait l'hébreu, ou l'araméen, ou le Christ parlait le romain, ou le grec, et vraisemblablement il devait parler le grec, parce que s'il avait lu la Bible, notamment dans la version des Septante, il connaissait le grec. Donc il est très vraisemblable que le Christ connaissait le grec ou le romain, ce qui ne change rien à la démonstration. Ça montre que cette Jérusalem dont nous sommes les héritiers, ce n'est pas la Jérusalem 100% juive, mais c'est déjà une Jérusalem qui a reçu l'influence d'Athènes, de Rome, mais peut-être plus encore d'Athènes que de Rome. Alors, évidemment, j'en viens maintenant à la deuxième capitale, Athènes. Je voudrais dire tout de suite, en commençant ce deuxième volet, qu'il faut être prudent, que, notamment lorsque je parle d'une civilisation helléno-chrétienne, je ne veux pas gommer tout ce qu'il y a de différence entre Athènes et Jérusalem. C'est vrai que Jérusalem est fondamentalement monothéiste, et c'est vrai que la civilisation grecque est foncièrement polythéiste. Ces différences existent, mais à l'époque qui nous intéresse, à l'époque où survient le Christ, elles sont déjà passablement estompées. Elles sont passablement estompées, d'abord parce qu'on l'a vu, la pensée grecque est arrivée dans cette région du monde, et les Juifs en ont été marqués. Certains livres de la Bible, par exemple, le livre de la Sagesse, sont profondément imprégnés par la culture grecque, et même certains livres de l'Ancien Testament, à ce que j'ai lu, sont écrits directement en grec. Donc il y a eu une influence. Mais inversement, la Grèce a évolué. Et en particulier, si la Grèce est restée fondamentalement polythéiste, le monothéisme a commencé à s'insinuer en Grèce. Et de ce point de vue, donc, il y a eu une influence certaine. C'est vrai toutefois que les Grecs ont une vision du monde qui est quand même assez différente de la vision du peuple hébreu. Le peuple hébreu, au moins à cette époque, est foncièrement théocentrique, la vie du monde est centrée sur Dieu, alors que c'est vrai que pour les Grecs, la vie du monde est beaucoup plus centrée sur l'homme, ils sont beaucoup plus anthropocentriques. Donc les différences existent, je n'ai pas le temps de m'y étendre beaucoup, éventuellement s'il y a des questions, j'en reparlerai, mais les différences existent, mais retenez qu'elles sont en train de s'estomper, qu'il y a une convergence finalement entre ces deux civilisations, et d'une certaine façon, on peut penser que cette évolution dans la Grèce est providentielle et qu'elle va permettre finalement au christianisme de s'épanouir à travers un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexions que les Grecs ont en fait. Athènes donc. Le pape Pie XII disait que l'Occident devait sa culture spirituelle au christianisme, et il ajoutait aussitôt « L'Occident doit sa culture naturelle à l'hellénisme ». Et donc au dire du pape Pie XII, grand docteur de ce XXe siècle, nous serions les héritiers du christianisme et de l'hellénisme. Et c'est vrai que on a vu tout à l'heure à quel point notre civilisation a été marquée par les apports de l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi que notre inconscient collectif, comme on dit parfois, est très profondément marqué par les thèmes de la Grèce. Par exemple, puisque je parle de l'Occident en général, et pas seulement de la France en particulier, mais dans le freudisme, il y a un certain nombre des mythes de la Grèce qui ont été repris. Oedipe, c'est bien connu, Narcisse. C'est bien connu également. On a toute une littérature qui a été profondément marquée par la Grèce Et je lisais d'ailleurs dans le train en venant, je relisais plutôt, j'avais lu ça il y a quelques années. J'avais trouvé ça d'ailleurs assez médiocre à l'époque, ce qui montre qu'il faut avoir atteint une certaine maturité pour apprécier certains ouvrages. Je relisais Antigone d'Anouilh. Et j'étais émerveillé par cette pièce, que je trouve extraordinairement émouvante et extraordinairement enrichissante, à la fois sur la nature humaine, c'est le propre de toutes les grandes pièces de théâtre, mais aussi comme réflexion sur le théâtre grec, parce que à travers cette Antigone d'Anouilh, évidemment, il y a toute une réflexion sur le théâtre grec. Et bien évidemment, ce thème d'Antigone et combien d'autres thèmes développés par Anouilh, ce sont des thèmes pris dans l'Antiquité grecque. Mais nous ne devons pas seulement cela à la Grèce. Nous devons à peu près tout à la Grèce. J'y étais l'an dernier, à peu près à cette époque, et la réflexion que je me faisais, c'est que je me sentais vraiment chez moi en Grèce, à Delphes, à Athènes, au milieu de ces ruines. J'avais vraiment l'impression que c'était des édifices édifiés par mes ancêtres. Je me sentais véritablement le descendant de ces gens-là, parce que je me sentais chez moi. Et je ne pense pas que je me sentirai chez moi de la même façon quand je serai dans quelques jours en Égypte, puisque j'ai l'occasion d'aller y faire un petit voyage. Et parce que c'est vrai que cette Grèce, d'une certaine façon, elle coule dans notre sang, elle coule dans nos artères. Un sens de l'harmonie, cet équilibre qu'il y a dans les constructions grecques, qui fait qu'on s'y sent bien. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop haut, ni trop bas, etc., ni trop large, ni trop long, l'harmonie. Ce sens de l'harmonie nous vient de la Grèce. Et puis la pensée, surtout. Ce sont véritablement les Grecs qui nous ont appris à penser. Déjà l'apôtre Paul le notait, les Juifs veulent des miracles, les Grecs la sagesse. C'est vrai qu'il les renvoyait dos à dos les uns et les autres, puisqu'il proposait une troisième voie, comme diraient certains, mais le fait est qu'il y avait quelque chose aussi d'admiratif, je crois, chez l'apôtre Paul, de voir que ces gens-là recherchaient la sagesse. Et évidemment, il est bon de rechercher la sagesse. Et c'est par les Grecs que nous avons véritablement découvert toutes les grandes règles de la sagesse humaine, bien entendu, qui devaient être couronnées par les enseignements divins. C'est eux qui ont donné naissance à la science, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire à la connaissance, dégagée de la magie, peut-être un peu trop d'ailleurs parfois. C'est Thalès qui nous fait découvrir la géométrie, Pythagore les mathématiques, Thucydide, qui est le premier historien digne de ce nom, Hippocrate, dont le serment est encore aujourd'hui en vigueur, bien émasculé, il est vrai, mais en fait, les médecins encore aujourd'hui doivent prêter le serment d'Hippocrate, et surtout la philosophie. Car sans être spécialiste de la philosophie grecque, force est de constater que tout, à peu près, a été dit par les Grecs. Dans le domaine de la philosophie. Toutes les grandes vérités, et même, je crois, toutes les grandes erreurs ont déjà été exposées par eux. Tous les grands systèmes philosophiques s'y trouvent. Héraclite, pour lequel tout est mouvement, et c'est déjà la base de toute la philosophie progressiste et de ses ravages au XXe siècle. Pythagore, pour lequel tout est nombre. On connaît les paradoxes de Zénon, et puis surtout on arrive aux trois grands, Socrate, Platon et Aristote. Socrate, qui sait accoucher les esprits. Platon, pour lequel tout est idée. Aristote, qui cherche la réalité, le réalisme, l'observation aristotélicienne. La recherche aussi des classifications, cet esprit rigoureux qui va tellement marquer en particulier notre pays. Et finalement, on a ces deux grandes voies pour la recherche de la vérité, cette voie idéaliste, cette voie réaliste. Chacune ayant ses mérites, mais saint Thomas nous dit quand même que la plus sûre, c'est la seconde, c'est la voie réaliste, et c'est pour ça qu'il appelle Aristote le philosophe. À ceci près tout de même qu'il y a chez Platon des intuitions extraordinaires. On lit dans la République ceci: le juste sera fouetté, mis à la torture, chargé de chaînes, on lui brûlera les yeux, il sera crucifié. Il y a tout de même quelque chose d'assez extraordinaire dans ces citations. Et même, cette idée même du logos, le discours, le verbe, cela prépare admirablement toute la pensée chrétienne. Au fond, se mettent en place tous les matériaux naturels dont va se servir le divin pour nous donner la vérité pleine et entière. ces Grecs ont été nécessaires, y compris dans l'économie du salut humain. Et on sait d'ailleurs que Saint Jean et Notre-Dame iront terminer leur vie à Éphèse, ville grecque. Ce qui donne aussi à penser d'ailleurs que peut-être, je vois que quelqu'un n'a pas l'air d'accord, mais on pourra en parler éventuellement, on en parlera à la fin. Ce qui vous donne aussi peut-être à penser que le Christ parlait le grec, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque tout naturellement, sa femme est allée dans une ville où c'est de la Grèce d'Asie Mineure, de la Grèce d'Asie Mineure, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas la Grèce actuelle, hein. C'est l'influence grecque de l'époque, zone d'influence grecque, où on parle le grec. Dernier élément concernant Athènes, j'ai évoqué la pensée philosophique, c'est la pensée politique. Et là, je crois que cet enseignement, les politiques d'aujourd'hui ou ceux qui font profession de lettres devraient le méditer, car les Grecs nous ont apporté deux choses. La réalité de la démocratie et la réflexion sur la démocratie. D'abord, la réalité de la démocratie, parce qu'ils ont mis en œuvre la démocratie, dans une ville du moins, Athènes. On sait que la démocratie, d'ailleurs, n'était pas répandue partout en Grèce, c'est important. Parce que les Grecs considéraient, justement, j'y reviendrai, que plusieurs régimes politiques étaient possibles. On sait en particulier que la ville de Sparte était une sorte d'aristocratie guerrière. Et d'ailleurs, force est de constater que Athènes est plus florissante du point de vue de la civilisation que Sparte. Sparte, qui est finalement une gigantesque caserne, mais qui est une ville intéressante parce qu'elle préfigure tout à fait le totalitarisme, ou du moins certains totalitarismes modernes. Mais ce que nous enseigne Athènes, et ce que nous enseignent de manière générale les penseurs grecs, c'est que chaque régime politique a ses avantages et ses inconvénients. Et ça montre bien l'infirmité de notre réflexion politique aujourd'hui. Car aujourd'hui, on explique qu'il y a un seul régime possible. D'ailleurs, on le voit bien dans les débats politiques, le dernier argument, c'est de dire, mais monsieur, si vous dites ceci, vous n'êtes pas démocrate. Mais si, si, serait écrit l'autre, je vous jure, je suis démocrate, très sincère, très pratiquant, ne croyez pas que je sois hérétique, le moins du monde. Les Grecs avaient une vision beaucoup plus réaliste. La démocratie était un régime qui présentait des avantages, de même que les deux autres régimes possibles, selon, vous le savez, que le pouvoir appartient à tous, à tout le peuple, démocratie. Il faudra d'ailleurs y revenir, que le pouvoir appartient au meilleur, aristocratie, et que le pouvoir appartient à un seul, monarchie. Et d'ailleurs, dans leur réalisme, les Grecs savaient que chacune de ces formes était susceptible de se corrompre en une forme moins bonne, voire épouvantable, la démocratie dégénérant en anarchie, l'aristocratie en oligarchie, et la monarchie en tyrannie. Et c'est là qu'on voit au passage la supériorité de la réflexion des Grecs sur la réflexion actuelle, c'est qu'aujourd'hui, je le répète, on présente toujours la démocratie comme l'aboutissement du genre humain, de la politique depuis les origines de l'humanité. Alors qu'en fait, les Grecs avaient une vision beaucoup plus réaliste, assez cyclique, c'était d'ailleurs un peu leur philosophie, les régimes se succèdent les uns les autres parce que chaque régime, à un moment, finit par dégénérer et on trouve un autre régime qui permet de corriger les excès de ce régime qui est en train de mourir et de se décomposer. Et il n'est pas nécessaire d'ailleurs de remonter jusqu'à l'Antiquité pour retrouver cette réalité. Il suffit de considérer la France depuis la Révolution. On voit que les régimes se sont enchaînés les uns les autres. Et même à deux reprises, on a observé le même cycle. Si vous prenez la période 1789-1814 et après la période 1814-1870, vous avez dans les deux cas une monarchie, une république et un empire. Ce qui montre bien que les régimes ont vocation à se succéder et ceux qui pensent naïvement que la démocratie est le point ultime de l'humanité, ces gens-là, s'ils vivent quelques années, ont de fortes chances d'être déçus car il n'y a pas de raison que cette loi qui a toujours fonctionné dans l'histoire de l'humanité se soit brusquement arrêtée. Troisième ville, Rome. Troisième racine, Rome. Rome, c'est d'abord pour nous, bien sûr, la langue. On retrouve dans notre langue un certain nombre de racines grecques, mais l'essentiel de notre langue nous vient de Rome, et nous savons que le français est directement issu d'un bas latin qui a donné le roman, lequel a donné naissance au français. Et ce qui est vrai pour la France est vrai pour une multitude de pour la multitude des pays occidentaux, des pays européens, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a cette parenté entre toutes les langues, puisqu'elles ont une mère commune, c'est normal qu'elles soient sœurs les unes des autres, et c'est ce qui fait qu'on apprend assez facilement, je ne m'y attends pas, les langues des autres pays latins. Mais au-delà de la langue, Rome nous a laissé une littérature, avec de grands auteurs, peut-être pas des auteurs aussi considérables que les Grecs que j'évoquais tout à l'heure, mais quand même des gens qui ont pu nous influencer beaucoup. Et je pense d'abord à Jules César et à la façon dont César décrit les Gaulois dans la guerre des Gaules. Et cette description, elle est d'une actualité brûlante. Ce sera sans doute de moins en moins vrai si les flux migratoires continuent d'être ce qu'ils sont. Mais c'est vrai qu'on trouve bien dans la description du peuple gaulois les défauts et aussi d'une certaine façon les qualités des Gallo-Romains que nous sommes encore aujourd'hui de quelque façon. Cicéron aussi. Cicéron, dont Victor Duruy disait qu'il était l'éducateur, le grand éducateur du genre humain. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Cicéron, c'est un homme qui était plein d'humour. Il disait « On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas ». Et je pense que c'est une phrase qui est d'une brûlante actualité. On peut en citer beaucoup d'autres. Je pense à Plaute qui a directement influencé Molière, et on sait par exemple que l'avare est directement calqué sur la marmite de Plaute. À ceci près que Molière a quand même apporté sa touche de génie. Plaute, d'ailleurs, on l'ignore souvent, est l'auteur de la fameuse formule qui a rendu célèbre Hobbes beaucoup de siècles plus tard, la fameuse formule « L'homme est un loup pour l'homme ». Et c'est vrai que quand Hobbes est allé ressortir cette formule, ça lui a valu tout de suite une grande notoriété, mais elle était somme toute très ancienne. Je passe sur la langue, sur des choses très connues, sur le droit. On s'arrête peut-être quelques instants. Le droit en France... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une certaine dégénérescence du droit, mais cette grande renaissance du droit que la France a connue après la Révolution française et à l'instigation de Napoléon Bonaparte, elle se fait directement en puisant dans le droit romain. Le code civil, il est très largement inspiré du droit romain. Les concepts aussi de droit public, j'évoquais Cicéron tout à l'heure, Cicéron a très bien formalisé tous ces concepts, notamment le concept de res publica, que l'on traduit aujourd'hui abusivement par république au sens telle forme de régime politique, mais la res publica, étymologiquement, c'est la chose publique par opposition à la chose privée. Et c'est un concept d'ailleurs fondamental en matière politique que les politiciens devraient méditer tous les matins avant de se rendre dans leurs différentes assemblées, bien distinguer la chose publique de la chose privée. C'est déjà éviter de mettre les mains dans les caisses publiques pour se remplir les poches privées. Et puis, cette Rome, c'est, je crois, pour nous un exemple, et un exemple d'une grande actualité. Montesquieu avait médité, avant d'écrire l'Esprit des lois, avait médité sur l'histoire de Rome. Il s'était posé la question de savoir qu'est-ce qui avait expliqué le succès de cette petite ville au départ, parce qu'au début, Rome, ça n'est qu'une petite ville au milieu de la péninsule italienne, et puis cette ville va conquérir le Latium, toute la péninsule, et puis une partie du bassin méditerranéen, et puis tout le bassin méditerranéen, elle va réussir à faire ce grand empire qui regardera la mer Méditerranée comme une mer intérieure, Mare Nostrum, notre mer, une sorte de lac intérieur. Et je crois qu'on a tout intérêt à relire aujourd'hui Montesquieu, parce que même si certaines de ses affirmations sont parfois sujettes à caution, il y a un certain nombre d'enseignements indiscutables. Par exemple, le fait que ce qui a fait la grandeur de Rome, c'est l'amour du travail, de la discipline, de la patrie. Et on pourrait ici, si le temps le permettait, évoquer l'importance du rôle de Octave Auguste. Octave Auguste qui arrive dans une situation juste après les guerres civiles, ou même directement impliqué dans les guerres civiles, mais il voit que le pays est menacé de décadence. Et c'est vrai que Rome aurait pu mourir à ce moment-là. Mais là encore, il y a la volonté d'un homme. Cet homme ne veut pas que son pays meure. Et finalement, cet homme va refonder son pays sur les vraies valeurs. Je serais tenté de dire que son programme, c'est travail, famille, patrie. C'est dans ce sens qu'il va agir. Faire en sorte que les gens aient envie de travailler, d'abord parce qu'ils touchent les fruits de leur travail, et que somme toute, on va faire des conditions plus avantageuses à ceux qui travaillent qu'à ceux qui ne travaillent pas, parce que si ceux qui ne travaillent pas ont les ressources équivalentes à ceux qui travaillent, on ne voit pas pourquoi ils iraient travailler. Voilà une première remarque d'Auguste, Octave. Ensuite, il va agir en faveur de la famille, encourager le mariage, les familles stables, les enfants, la démographie. Et puis, c'est une politique en faveur de la patrie. Et au fond, tout cela va permettre à cet homme, qui était menacé de disparition à ce moment-là, de renaître et de revivre pendant plusieurs siècles. Et puis, à contrario, on a un apprenti sorcier, c'est Caracalla, qu'on présente souvent d'ailleurs d'une façon assez péjorative. La charité chrétienne m'interdit d'en parler. Mais ce Caracalla, il a la funeste idée en 212 de prendre son fameux édit par lequel la nationalité romaine est donnée à tous les habitants de l'Empire. Alors qu'avant, il y avait deux catégories dans l'Empire, les citoyens romains qui avaient un statut privilégié et les autres qui étaient des conquis assez bien traités, somme toute, mais qui n'avaient pas tous les avantages du citoyen romain. Ce qui explique d'ailleurs que quand l'apôtre Paul est incarcéré, à un moment donné, on le voit dire, as-tu le droit, à celui qui s'apprête à le battre, as-tu le droit de donner le fouet à un citoyen romain? Et on voit l'autre s'écarter immédiatement en disant, quoi, tu es citoyen romain? Mais comment se fait-il? Moi j'ai payé très cher, dit le soldat, moi j'ai payé très cher pour être citoyen romain. Et l'apôtre Paul lui répond, moi je le suis de ma naissance. Ce qui montre bien que ce petit juif était romain, avait la citoyenneté romaine, mais que tous les gens qui étaient là-bas, et y compris quelqu'un qui était soldat romain, qui s'apprêtait à lui donner le fouet, n'était pas issu de parents romains. Eh bien, l'édit de Caracalla, là c'est au début du IIIe siècle, donne la citoyenneté romaine à tout le monde. Et voilà comment Bossuet interprète la chose. Je crois que c'est encore une citation d'actualité. Rome, épuisée par tant de guerres, se fit tant de nouveaux citoyens qu'à peine pouvait-elle se reconnaître parmi tant d'étrangers. Je ne commenterai pas, je laisserai la responsabilité à Bossuet. S'ils le veulent, ils iront le déterrer et ils feront son procès. Le génie romain, c'est pas d'avoir tellement innové. Quand on fait l'étude des civilisations, on se rend compte qu'il y a en gros deux catégories de civilisations. Il y a les civilisations qui apportent véritablement quelque chose. Le cas le plus patent, c'est la Grèce. Et puis il y a des civilisations qui n'apportent rien, mais qui ont le mérite, et ça n'est pas méprisable, qui ont le mérite de discerner ce qui est bon. Par exemple, on a les Phéniciens un peu dans ce cas de figure, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'ont sans doute pas inventé l'écriture, mais ils ont eu le mérite de découvrir ces signes et de s'en servir et de les diffuser dans le monde. Je crois que les Japonais sont un peu comme ça aussi aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup de grandes découvertes, mais ils savent découvrir ce qui est bon et en tirer la meilleure part. Eh bien, les Romains aussi sont tout à fait de cette race, soit dit évidemment sans aucune connotation génétique. Ils sont de cette race, c'est-à-dire que ce sont de ces peuples qui ont peu innové, mais qui ont su toujours discerner ce qui était bon. Et ça a fait leur force, d'ailleurs Montesquieu l'explique bien. Quand ils se trouvaient sur un champ de bataille confrontés à un ennemi supérieur, ils se posaient la question, pourquoi les autres sont-ils supérieurs? Et ils découvraient qu'ils avaient des techniques militaires, des armes, qui leur donnaient cette supériorité. Eh bien, ils prenaient ces techniques militaires, ils prenaient ces armes. Et ça, je crois que c'est un enseignement qu'on peut méditer aujourd'hui. Être nationaliste, je n'aime pas trop le terme, je l'utilise pour aller droit à l'essentiel, ou être patriote, mais celui-ci est un peu galvaudé. Ça n'est pas se replier sur son pays et ne rien accepter de l'extérieur. On peut être patriote, aimer Wagner, aimer Shakespeare, aimer les macaronis, et même aimer le couscous, pourquoi pas. J'en ai mangé un très bon à midi dans un restaurant tunisien. Être patriote ou nationaliste ne veut pas dire être borné. Ça veut dire simplement qu'on prend chez les autres ce qui est bon, mais qu'on ne voit pas pourquoi on irait prendre chez les autres ce qui est moins bon que ce que nous avons. On ne voit pas pourquoi on abandonnerait les musiciens français pour le tam-tam africain, par exemple. C'est exactement l'esprit qu'avaient les Romains. Et quand les Romains ont conquis la Grèce, la formule est connue, la Grèce subjuguée, subjugua son farouche vainqueur et porta les arts, au sein du Latium sauvage. La formule est classique. Les Romains arrivent à Athènes et en Grèce en général et ils se rendent compte que les Grecs, en termes de civilisation, leur sont très supérieurs. Alors que font-ils? Eh bien, ils prennent tout ce qu'il y a de bon à Athènes, c'est-à-dire à peu près tout. Et puis tout ça, ils vont le ramener chez eux. Et c'est d'ailleurs à travers eux que nous allons avoir cet héritage grec. Un grand nombre des statues grecques que nous contemplons aujourd'hui ne sont en fait que des reproductions que les Romains ont fait des statues grecques, lesquelles ont été perdues, notamment à la suite de l'invasion musulmane. Donc, ces Romains n'ont peut-être pas beaucoup inventé, mais du moins ont-ils eu le goût pour choisir ce qui était bon. Cela me fait penser d'ailleurs à cette phrase assassine de Saint-Simon sur Louis XIV. Vous connaissez, né avec une intelligence au-dessous du médiocre. Et François Bluche, qui est un grand historien de la période, qui était interrogé à ce sujet, disait, d'abord, il n'était pas si bête que ça, en parlant de Louis XIV, et puis ensuite, il avait de grandes qualités de discernement. Et d'ailleurs, on le voit à travers ce qu'il nous a laissé en termes d'architecture, de jardin et d'art, en règle générale. Il savait discerner ce qui était bon. Et au fond, ce qu'on demande à l'homme politique, là aussi, c'est un enseignement qu'on peut tirer, c'est d'avoir du discernement. À la limite, il n'est pas très nécessaire qu'il ait de l'intelligence, s'il sait discerner ce qui est bon. S'il sait discerner les gens intelligents, eh bien, il en aura dans son entourage, et ça suffira bien. Et à la limite, ça sera peut-être beaucoup mieux que si lui se croit investi d'une sorte d'intelligence suprême, et s'il entend décider de tout. Et donc ces Romains, de ce point de vue, ont été très utiles pour l'histoire de la civilisation, parce qu'ils ont pris ce qui était bon. Et ils nous ont transmis quelque chose, peut-être qui leur appartenait là véritablement en propre, c'est précisément cette notion d'enracinement. Les Grecs, je crois, ne se caractérisaient pas par ce sens de l'enracinement. Les Grecs, au contraire, ils voyageaient, c'était comme des grenouilles autour d'une mare, ils allaient s'implanter un peu partout dès lors qu'il y avait un peu de soleil, que la mer était navigable et qu'on pouvait philosopher sur les plages, ça leur suffisait, faire un peu de commerce. Les Romains, et ça je crois que nous en particulier Français, nous avons été très profondément marqués par cela, nous ont légué ce sens de la terre. S'il y a un peuple de la terre, c'est bien le peuple romain. D'ailleurs, regardez l'origine de Rome, c'est Romulus qui trace son sillon. La terre avec la frontière autour, et quand Rémus passe en dehors de l'endroit prévu, il est mis à mort. Et ça, je crois que c'est vraiment le signe d'un peuple enraciné. Et cela aussi, je crois que c'est providentiel, parce que, et Popper l'explique d'ailleurs dans son bouquin, Jean-Marie Popper l'explique dans son bouquin sur les trois capitales, les Romains ont été d'une certaine façon le contrepoids des autres civilisations. Et cet équilibre occidental, cet équilibre auquel l'Occident est arrivé, c'est en grande partie à Rome qu'elle le doit. Parce qu'il y avait ce prophétisme juif d'un côté, il y avait ces réflexions philosophiques des Grecs, mais s'il n'y aurait eu que ça, on aurait eu un peuple un peu évaporé, pas très réaliste somme toute. Les Romains ont apporté ce qu'il fallait de poids, finalement, ce poids de la terre. Et ils ont aussi apporté tout ce qu'ils ont laissé dans le domaine de l'architecture. Je suis toujours émerveillé par le pont du Gard. Cet été à Orange, j'ai visité le théâtre antique, admirable. Ce théâtre antique, d'ailleurs, qui est un des rares qui soit resté entier, parce que très souvent dans les théâtres antiques, on n'a plus que les gradins, parce que c'est la partie qui est la moins vulnérable au temps. Mais le mur de scène lui-même est en général la première chose qui disparaît. Et à Orange, il a très bien tenu grâce aux techniques de construction des Romains. Et un ami d'Orange me le faisait remarquer, ils avaient un système notamment pour que l'eau ne rentre jamais entre les pierres. Et aujourd'hui, même encore, les architectes ne comprennent pas bien comment ils faisaient. Mais le fait est que l'eau ruisselait toujours vers l'extérieur, donc elle ne rentrait pas dans les murs, et donc les murs ne s'effondraient pas. Et comment ne pas penser ici au pont de Vaison-la-Romaine ? Alors que tous les ponts modernes ont été emportés lors de la crue il y a quelques années, le seul pont qui est resté sur place est le pont romain. Alors tout ceci montre évidemment qu'ils étaient d'habiles architectes, mais je crois que symboliquement, cela montrait que c'était des gens enracinés qui savaient construire par là même du solide. Voilà ce qui nous a fait tels que nous sommes, voilà nos racines. Et plus rapidement à présent, je vous proposerai de voir comment on nous a déracinés. Comment on nous a déracinés ? Et d'abord, peut-être n'est-il pas inutile de dire en commençant ce second aspect, que le déracinement est très souvent la cause de grands malheurs. C'est le thème d'un roman bien connu de Barès, Les Déracinés, l'histoire de ces jeunes qui viennent de sa Lorraine natale et qui montent à Paris, et cela se termine mal, ils tournent plus ou moins mal les uns les autres, et il y en a un qui finit d'ailleurs comme assassin. Et au fond, ce roman est d'une brûlante actualité, car un certain nombre des malheureux qu'on a déracinés du sud de la Méditerranée, car vous le savez, je suis un des responsables du Front National dans la région, mais je puis vous assurer qu'à l'intérieur, nous sommes entre nous. Donc si c'était différent, je pourrais vous le dire, y compris devant le micro. Nous n'avons jamais tenu les immigrés pour responsables. Nous les considérons comme des victimes. Et quand nous voyons des immigrés commettre, être délinquants, parce que c'est vrai que la proportion de délinquants est assez grande chez un certain nombre d'immigrés, nous ne le disons pas pour faire leur procès, nous le disons pour faire le procès de la société qui les a fait venir. Et en fin de compte, le drame de cette immigration, c'est qu'on a fait des malheureux des deux côtés. Des malheureux de ceux qu'on a fait venir et des malheureux de ceux qui sont sur place. Donc c'est vraiment le type même de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ce déracinement est toujours source de grands drames et c'est pourquoi il vaut mieux l'éviter. Les racines qui ont été coupées, ce furent d'abord la racine chrétienne, puis les racines grecques et romaines. Et on voit bien que chronologiquement, c'est d'abord la racine chrétienne sur laquelle on s'est acharné, sans doute parce que c'était la racine la plus importante, il fallait commencer par là. Et évidemment, c'est la Révolution. Et cette Révolution française, je passerai assez vite dessus parce que ce sont des choses assez connues, mais tout de même, faisons l'inventaire un peu de tout ce qu'apporte, ou devrais-je dire de tout ce qu'enlève la Révolution française. Il y a d'abord un aspect assez fascinant, c'est cette volonté de vouloir changer de calendrier. Et ça, je crois que c'est un aveu extraordinairement important. On change de calendrier, c'est le signe de ce que dit Michelet, et j'ai mis longtemps à réaliser à quel point Michelet était un génie. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai trop vu dans Michelet, Jules Michelet, l'historien un peu romantique, noircissant le tableau, expliquant que la Révolution, c'était la Révolution de la famine, etc. C'est vrai que tout ceci cache souvent ce qu'il y a de lumineux dans Michelet, et c'est sans doute l'homme qui a les intuitions les plus profondes sur la Révolution. Et il dit, la Révolution est une église. Et ça, c'est profondément vrai. La Révolution est une église. Et il ajoute d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne peut supporter aucune église. Et si vous me permettez une toute petite parenthèse ici, parce que c'est un sujet que j'ai travaillé l'an dernier pour un colloque universitaire, je suis intéressé au personnage de Robespierre. Eh bien, la clé de l'histoire de Robespierre, précisément, c'est cela, la Révolution est une église. Tant que Robespierre s'est présenté comme le prophète de l'église, il a été reçu, il a été encensé, et il connaît une ascension fulgurante. Et du jour où Robespierre veut créer sa propre église, le culte de l'être suprême, il démontre par là qu'il n'a rien compris. Il ne peut pas y avoir une église dans la Révolution, puisque la Révolution elle-même est l'église. Et ceci démontre justement la profondeur de la vision de Michelet. La Révolution est une église. Et comme elle est une église, elle doit, une nouvelle église, elle doit avoir son propre calendrier. Et c'est pourquoi il faut absolument éradiquer le calendrier chrétien. Donc on recommence à compter à partir, non pas de 1789, notez-le bien, mais à partir de la République, de 1792. C'est l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, et ceci, au bout de 13 ans, je crois, Bonaparte y mettra bon ordre. C'est évidemment, à l'occasion, les saints qui disparaissent, évidemment. C'est la semaine de 7 jours, on parlait tout à l'heure des 7 jours de la création, et l'on arrive à 10 jours, ce qui présente d'ailleurs un avantage en termes économiques, et qui ouvre la porte, c'est un des éléments qui ouvre la porte à l'exploitation ouvrière du XIXe siècle, qu'il n'y aura qu'un jour chômé sur 10, au lieu d'un jour chômé sur 7. Car dans la civilisation chrétienne, il faudrait le dire plus souvent en masse laborieuse, ça, mais on chômait au Moyen-Âge à peu près 100 jours par an. Combien de temps a-t-il fallu, combien d'années, combien de décennies a-t-il fallu après 1789 pour qu'on arrive à un système à peu près équivalent? Donc, premier élément, le calendrier révolutionnaire. Deuxième élément, la désacralisation du pouvoir, qui se fait d'ailleurs progressivement. C'est avant 1789 la souveraineté de droit divin, ce qui légitime le pouvoir, c'est Dieu. Et puis, phase intermédiaire, c'est la souveraineté nationale. C'est une idée de Sieyès, qui d'ailleurs est un ecclésiastique, on n'est jamais trahi que par les siens, vous le savez bien. Et Sieyès, justement, il va faire une théorie de la souveraineté qui est assez abstraite, et qui finalement n'est pas tout à fait déjà la souveraineté populaire, qui est tout à fait concrète. Dans la souveraineté populaire, on dit le pouvoir vient du peuple, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens. Pour Sieyès, le pouvoir, il appartient à la nation, qui est une entité abstraite, qui n'est pas très éloignée d'ailleurs de la divinité. Donc progressivement, le pouvoir se désacralise, c'est Dieu, puis après c'est une abstraction, la nation, et puis après c'est le peuple. Et ce qui est très important, c'est que ce pouvoir désacralisé va être, et ça peut sembler paradoxal, un pouvoir divinisé. Car ce nouveau pouvoir, il a absolument tous les attributs de la divinité. D'abord, il est le législateur. Et c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont vous savez qu'elle est représentée graphiquement sous forme des tables de la loi. À la différence que dans les tables de la loi, il y avait des interdits, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Tu ne convoiteras pas ni la femme de son voisin, ni sa maison, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, mais tout ça un peu en commun. C'est vrai que c'est la même racine, c'est la concupiscence. Maintenant, les tables de la loi affirment les droits de l'homme. Ce n'est plus les interdictions à l'homme, c'est exactement l'inverse. On ne pourra pas t'empêcher de t'exprimer, on ne pourra pas t'empêcher de penser ce que tu veux, on ne pourra pas t'imposer une religion, etc. Mais la représentation, c'est bien les tables de la loi. Et là encore, le grand Michelet dit, c'est le credo du nouvel âge. Et c'est très exactement cela. Nous parlions, monsieur l'abbé, tout à l'heure, des droits de l'homme. C'est la seule chose qu'on nous demande aujourd'hui. Si nous proclamons les droits de l'homme, nous sommes tranquilles. Exactement comme nos ancêtres dans l'Empire romain, s'ils acceptaient de brûler un peu d'encens devant la statue de l'empereur, ils étaient tranquilles. Ils pouvaient croire ce qu'ils voulaient. La seule chose qu'ils exigent de nous, c'est que nous acceptions les droits de l'homme, parce que c'est leur religion. C'est la religion dominante aujourd'hui, raison pour laquelle, évidemment, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce pouvoir, il est tout puissant. Cette souveraineté, c'est le pouvoir suprême. Il n'y a rien au-dessus, pas même Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Jean-Jacques Rousseau le dit d'ailleurs textuellement dans le Contrat social. La volonté générale, dit-il, ne peut errer. Je crois que c'est exactement le terme théologique qu'on utilise pour l'Église. L'Église ne peut errer. Je crois que certains théologiens parlent de l'inérrance de l'Église, voulant dire par là qu'elle ne peut pas se tromper. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Eh bien, maintenant, c'est la révolution qui ne peut pas errer. Et tout naturellement, comme on a la vérité, comme on est tout puissant, eh bien, cette vérité, il faut qu'on la porte à toute l'Europe. Et c'est le messianisme, à partir de 1792, la guerre déclarée à toute l'Europe, car la révolution, ça n'est pas la paix, vous le savez. Et cette guerre qui s'engage, soit dit en passant, en 1792, elle va durer jusqu'en 1815, c'est-à-dire pratiquement, si je compte bien, pendant plus de 20 ans. Autre trait qui caractérise la révolution, la séparation de l'Église et de l'État. L'Église et l'État, en France, ont eu parfois des rapports orageux, mais ont toujours été unis. Un peu comme ces couples qui se disputent, mais qui, somme toute, restent solides et restent profondément attachés. Il y a eu parfois des difficultés, des moments très dramatiques, mais cela a toujours fini par des réconciliations et des concordats, et en particulier le concordat de 1516, qui va durer jusqu'à la Révolution, et puis, à partir de 1801, avec Bonaparte, le second concordat. Mais la logique révolutionnaire ne peut pas accepter le concordat, car le concordat, qu'on le veuille ou non, même si c'est vrai, le concordat, ça n'est pas une reconnaissance nécessairement par l'État de la vérité d'une religion. Mais c'est vrai que le concordat est toujours, d'une certaine façon, une prime donnée à une religion plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, dans le concordat de 1801, la religion chrétienne était reconnue comme la religion de la majorité des Français. Les ministres étaient appointés par l'État. Tout ceci était inacceptable pour la Révolution, car c'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et j'y insiste, cette déclaration de 89, elle est encore d'actualité. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions, se réfère encore à cette déclaration. Eh bien, l'article 3 dispose que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est la nation uber alles, au-dessus de tout. On ne peut donc pas accepter de principes religieux. Il ne peut donc pas y avoir de concordat. Et c'est pourquoi Clémenceau, qui va être, parmi d'autres, à l'origine de cette rupture du concordat, vous savez qu'il était très spirituel, il disait, peut-être très spirituel dans d'autres circonstances, mais là il disait le concordat est devenu un discordat, ce qui d'ailleurs était assez juste d'un certain point de vue. Eh bien Clémenceau avait cette formule, la révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. Et il était tout à fait dans la logique révolutionnaire lorsqu'il refusait le concordat. Seulement, cette laïcité qu'on nous présente certaines fois comme la neutralité, elle est dans la pratique impossible. Car il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique sans une philosophie qui inspire cet État, qui inspire cette politique. Et comme le disait très justement Jean Housset, vous ne voulez pas de la philosophie catholique, c'est entendu, mais alors quelle philosophie? Et le fait est que cette philosophie, elle existe bien. Elle ne se présente jamais de façon très précise, mais elle s'exprime de façon elliptique. Ce sont les grands principes. C'est l'esprit républicain, que sais-je encore, mais on sait bien que derrière ces mots un peu codés, il y a des réalités extrêmement précises, il y a une philosophie extrêmement précise. Et donc, refuser la philosophie catholique, c'est finalement s'exposer à adopter une autre philosophie. Et d'ailleurs, on voit bien, notamment ces dernières années, comment la Révolution n'a pas introduit une ère de liberté, mais comment elle a introduit d'autres principes qui sont tout aussi intolérants que les principes qui existaient avant. Cette chasse qui est faite au racisme, par exemple, aujourd'hui, cette chasse judiciaire qui est faite au racisme, on peut trouver que le racisme est une idéologie abominable. Et c'est vrai d'ailleurs que pour nous chrétiens, c'est une idéologie qui est assez étrangère, puisque nous, nous croyons, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il y a à l'origine du genre humain Adam et Ève. Donc on est biologiquement tous frères. Il faut noter au passage que les philosophes du XVIIIe siècle, je pense à Voltaire en particulier, ne croyaient pas à l'idée qu'il y a eu un seul couple. Au départ, ils pensaient qu'il y avait plusieurs races humaines. Et donc, ça, ça fonde bien, logiquement, des idées racistes. S'il y a eu d'un côté un couple très évolué, puis de l'autre côté un couple moins évolué, ben, on peut comprendre que des races se considèrent comme supérieures à d'autres. Mais nous, dans la logique même de nos convictions, il y a une profonde unité du genre humain. Nous sommes donc aux antipodes du racisme. Mais ce que nous observons ici, c'est que, au nom de la lutte antiraciste, on persécute bien certaines personnes au nom d'une certaine philosophie. Preuve, s'il en était besoin, que cet État n'est pas neutre. S'il était neutre, ben, il dirait aux racistes, vous êtes libre d'être raciste, aux antiracistes, vous êtes libre d'être antiraciste. Et l'État devrait se borner à dire, s'il y a des dommages causés aux uns ou aux autres, eh bien, vous avez l'article 1382 du Code civil. Si quelqu'un vous cause un dommage, vous avez droit à réparation. Mais il ne devrait pas y avoir immixtion ici du droit pénal. On est allé encore plus loin, car ces lois antiracistes, elles commencent à apparaître en 1972. Vous avez la fameuse loi Guesso, qui interdit de contester les crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité, par ailleurs, qui ont été définis par le tribunal de Nuremberg, sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on croit rêver. On croit rêver. Voltaire, Rousseau, interdisant de contester un fait historique. Mais aujourd'hui, où sont les Voltaire, où sont les Rousseau? Ils sont non pas derrière le tribunal, ils sont dans le box des accusés. C'est exactement l'inverse de la logique révolutionnaire. Ça semble tout à fait contradictoire. La logique révolutionnaire, c'est quoi? Mais c'est que les gens peuvent s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en l'homme. Et donc l'homme doit savoir où est le vrai, où est le faux. Et si aujourd'hui on est obligé de mettre en prison ceux qui ne disent pas comme les autres, c'est qu'on ne croit plus que l'homme est bon. Alors ça n'était pas la peine de faire 1789. Il ne faut pas critiquer l'Ancien Régime, car l'Ancien Régime ne faisait pas autre chose. À ceci près que l'Ancien Régime était infiniment moins féroce qu'est le nouveau, du point de vue de la répression des idées. Donc on voit finalement que cette rupture avec le christianisme est particulièrement grave. J'évoque un dernier point, mais de manière incidente, c'est la perte de la mémoire. Parce qu'on parle beaucoup de mémoire aujourd'hui, mais en fait, si vous avez la mémoire de ce qui s'est déroulé entre 40 et 44, vous êtes tranquille. Mais il n'y a quand même pas que ça. Dans nos 2000 ans de civilisation au moins, il y a d'autres choses qui se sont passées. Nous avions un jour une réunion au Conseil scientifique du Front National et Jean-Marie Le Pen nous disait que il y a des enfants aujourd'hui qui visitent, et c'est vrai, qui visitent les musées, et qui disent à leur maman, « Maman, c'est qui ce petit garçon qu'on voit toujours dans les bras de cette dame ?» Ils ne savent même plus que c'est le Christ et la Vierge Marie. Et personnellement, j'ai l'exemple d'une collègue qui va chez un autre collègue de la fac, qui est d'ailleurs un homme profondément bon, mais tout à fait agnostique, et elle arrive, elle avait une médaille de la Vierge autour du cou. Et des petits gamins, ils disent, c'est quoi ce que tu as au truc? Alors ils disent, c'est une médaille de la Vierge. Ah, le signe du zodiaque. Vous voyez? Donc là, vraiment, il y a une perte de mémoire. On devrait se poser des questions. Et d'ailleurs, même à l'éducation nationale, c'est vous dire que ça doit être grave, parce que même dans les bureaux de l'éducation nationale, ils en ont pris conscience. Ils se disent qu'il faudrait peut-être faire des cours, non pas de religion, mais enfin de civilisation religieuse, pour que les gens quand même comprennent un peu ce qui fait notre environnement. Donc, premier temps, la rupture avec le christianisme. La Révolution n'a pas rompu, en revanche, avec Rome ni avec Athènes. Au contraire, les références romaines et athéniennes sont extrêmement présentes dans la Révolution. On utilise volontiers le tutoiement entre révolutionnaires à la romaine. Vous savez que le latin ne connaît pas le vouvoiement comme nous le connaissons aujourd'hui. Il y a toute une phraséologie. Il y a quantité d'institutions qui vont prendre leur nom à Rome. Le consulat, par exemple, pour ne prendre que celui-là. Le tribunat. J'ai évoqué tout à l'heure le code civil. Donc, ce n'est pas à l'époque de la Révolution que ça s'est fait. Et pourtant, c'est bien la Révolution qui est à l'origine de ce phénomène. Car la Révolution a lancé ce phénomène de déracinement. Par nature, l'homme révolutionnaire, il est déraciné. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme. Et comme l'a dit excellemment Joseph de Maistre, je le cite de mémoire et donc en substance, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai rencontré des Anglais, des Suisses, des Suédois, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais pour ce qui est de l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. Et s'il existe, c'est bien à mon insu. Et ça, c'est la différence fondamentale entre l'anthropologie qui avait existé jusqu'à la Révolution et celle qui va surgir de la Révolution. L'anthropologie traditionnelle considère que l'homme est par nature un être enraciné. Alors que, dans la logique révolutionnaire, c'est l'homme, avec un grand H, qui n'est au fond qu'une idée. C'est une représentation platonicienne, c'est l'homme, l'abstraction de l'homme. Et ça explique que la loi doit être la même partout. On arrive chez les Bantous et on se dit, mais comment se fait-il? Vous n'êtes pas en démocratie. Donc c'est très mal ce que vous faites, puisque ça n'est pas de la démocratie. On ne peut juger de rien, puisque c'est l'homme. Vous jouez du tam-tam, c'est bien. Vous jouez une symphonie, c'est bien. Vous peignez la Joconde, c'est bien. Vous faites des graffitis sur les murs, c'est bien. Vous faites la Vénus de Milo, c'est bien. Vous empilez les boîtes de conserve, c'est bien. On ne peut juger de rien, c'est l'homme. Et donc, il ne peut pas y avoir plus ou moins, il ne peut pas y avoir d'appréciation. C'est la logique profonde de cela. Et donc, cette logique, évidemment, elle conduit tout naturellement à couper les racines, parce que les racines, c'est ce qui divise. Vous n'êtes plus l'homme, vous êtes l'héritier de Rome, d'Athènes, de Jérusalem, ou d'ailleurs. Et donc, ça divise. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et donc, progressivement, on va comme ça couper ces racines. Alors, certains vont le faire, j'allais dire en toute bonne foi, disons en toute naïveté, en toute bêtise. D'autres le feront consciemment. C'est comme tout ce qui se passe en politique. C'est comme l'avortement. Il y a les sots qui disent que c'est une liberté, puis il y a les méchants qui savent que c'est un moyen de tuer l'identité française. Pour l'immigration, c'est pareil. Il y a les sots qui pensent que n'importe qui peut vivre n'importe où, puis il y a les méchants qui ont décidé de faire disparaître l'identité française. Et donc, ce sont évidemment toujours les méchants qui dirigent et les sots qui suivent, c'est bien connu. Et donc, cette rupture avec Rome et Athènes, elle va se faire par étapes. Ceux de ma génération, je crois, l'ont bien vécu. Ils ont connu cette époque où, à côté de l'enseignement classique, le latin, le grec, on a vu apparaître l'enseignement moderne, les mathématiques. Mais à l'époque, c'était le grec, le latin, qui était fait par les meilleurs étudiants. C'était la filière classique qui était suivie par les meilleurs. Et puis, quand on n'était pas capable de faire du grec et du latin, on allait dans la filière moderne. Et puis après, les choses se sont inversées. Au début, on était mathématicien parce qu'on n'était pas capable d'être littéraire. Aujourd'hui, on est littéraire parce qu'on ne peut pas être mathématicien. Et donc, évidemment, les meilleurs étant écartés de cela, eh bien, c'est cette culture, déjà, qui a été affaiblie. Et puis, il y a eu la bourrasque conciliaire, avec le concile, et puis pire encore, l'esprit du concile. Parce que le concile disait, on peut mettre des langues vernaculaires dans la célébration de la messe. Mais l'esprit du concile, l'esprit malin s'il en fut, a dit, on peut mettre du latin, mais il faut que ce soit les langues vernaculaires. Évidemment, à partir de cela, les enfants de cette époque, dont j'étais, ont dit à leurs parents, pourquoi voulez-vous me faire faire du latin? Puisque même à la messe, on ne dit plus de latin. Donc ça ne sert plus à rien, c'est complètement dépassé, votre truc. Et donc, progressivement, tout ceci a disparu. Mais en oubliant le latin, on s'est interdit de comprendre notre langue. Et on sait bien que quand on veut comprendre véritablement le sens d'un mot, il faut aller à l'étymologie de ce mot. Et puis, en abandonnant une langue, on a abandonné tout naturellement les auteurs. Parce que pour tous des gens qui parlaient en latin, puisqu'on ne parle plus le latin, ce ne sont pas des gens très intéressants. Alors qu'avant, à l'inverse, on était obligé de les étudier, ces gens-là, puisque c'est eux qui avaient écrit en latin. Donc on était obligé de les étudier, ces auteurs. Et puis déjà, au passage, ça nous apprenait une chose très importante, qui était l'humilité. Parce que quand on lisait ces auteurs anciens, on se disait, mais pétard, ils pensaient drôlement bien, ces gens-là. Et on se disait, somme toute, qu'ils pensaient beaucoup mieux que nos penseurs actuels. Parce que quand on lit Bernard-Henri Lévy et quelques autres aujourd'hui, je ne parle pas de Finkielkraut, pour lequel j'ai une petite tendresse, parce qu'il a parfois une certaine liberté d'esprit qui mérite qu'on le mette à part. Enfin, quand on lit ces gens qui sont dans l'air du temps, les Alain Minc, qui font leurs livres chaque année, comme ça, avec le thème de l'année qui leur permet de bien vendre, et puis qu'après, on va lire un tout petit peu les grands auteurs, on voit tout de suite la différence. On voit tout de suite qu'il y a des gens qui sont des philosophes, puis il y a des gens qui sont appelés des philosophes, que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, tout ceci a eu pour effet de nous couper des racines de ces auteurs. Et là encore, je le dis, ça a fait croître notre orgueil de façon démesurée. On s'imagine qu'on a inventé quelque chose en philosophie, par exemple, alors que tout ou presque avait été dit. Et en matière de sciences politiques, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre du professeur Rouvier. Si vous avez l'occasion de le trouver, notamment chez les bouquinistes, parce qu'il n'y a que là que vous pourrez le trouver, achetez-le. Il a fait 2 tomes. Le premier s'appelle, je crois, Les idées politiques jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, et le second, c'est à partir de Jean-Jacques Rousseau. Et quand il commence son 2e tome, il dit, en fait, je ne voulais écrire qu'un volume. Et puis, comme le premier volume a eu un certain succès, on m'a demandé d'écrire la suite. Alors, j'ai écrit la suite, mais je vous dis tout de suite, il n'y aura rien de nouveau dans ce que je vais écrire, parce que jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, tout avait été dit. Et après, on n'a plus rien inventé. Et après, les gens n'ont fait que ressasser, et souvent, en moins bien, ce qu'avaient dit les grands auteurs. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. J'ai été peut-être un peu long, mais vous avez été très patient, je vous en remercie, vous avez été très indulgent. Et peut-être quelques mots pour conclure. Je crois que tout ce que j'ai pu brosser devant vous, je n'ai pas la prétention de vous avoir appris quoi que ce soit, mais simplement je crois que le fait d'avoir ajouté comme ça, bout à bout, un certain nombre d'éléments, avoir fait cet inventaire, ça nous permet de comprendre cette réalité que, comme je le disais en commençant, les hommes, les peuples sont enracinés. Et peut-être pour terminer, me permettrez-vous une comparaison. Voilà ce qu'on raconte chez moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais si ce n'est pas vrai, comme disent les Italiens, si non è vero è ben trovato, les manches à friot dans mon petit village racontent que quand les sangliers ne trouvent rien à se mettre sous la dent, ils mangent les racines des arbres. Et certains arbres, notamment les sapins, ont des racines qui sont pratiquement qui courent sur le sol. Alors, ils les mangent comme ça, parfois ils grattent un peu pour les manger. Et on a d'immenses arbres comme ça, qui ont certaines racines qui ont été coupées. Et survient un jour la bourrasque, et on ne sait pas trop pourquoi, mais les sangliers, eux, le savent, ces arbres, d'un coup, se couchent et se brisent. Eh bien, au fond, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je vous dis tout de suite que je ne vous dirai pas qui sont les sangliers, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à la situation où un certain nombre de nos racines ont été coupées par des êtres malfaisants ou des sots, peu importe, le résultat est le même. Et donc, on sent que cet arbre, il branle-balle, qu'il est déjà bien malade. Ce que la nature nous enseigne aussi, c'est que, parce que la nature est bien faite, parce qu'elle a été faite par quelqu'un qui fait très bien les choses, en règle générale, c'est que ces arbres, si on leur en donne le temps, si on les soigne, et puis concernant les hommes et les civilisations, s'il y a une prise de conscience, ils peuvent retrouver leurs racines, pousser de nouvelles racines dans le même terreau, ils peuvent retrouver leur solidité, et je crois que, dans le domaine temporel, c'est ce que nous avons à faire, parce que ce combat que nous menons, c'est bien sûr le combat pour notre civilisation, à laquelle nous sommes légitimement attachés, mais par-delà notre civilisation, c'est un combat pour la civilisation. Alors, j'ai été sans doute un peu long, mais enfin, cela dit, si certains souhaitent poser des... Monsieur.
Vous avez parlé de toutes ces grandes civilisations, mais il y en a une qui était quand même très importante, dans le chef de laquelle c'est l'Égypte, et qui a quand même influencé aussi l'Égypte, c'est la civilisation égyptienne.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on aurait pu développer cela. Je crois que ça a été une très grande civilisation. D'ailleurs, je vous ai dit que j'y partais, parce que je vais vous répondre de manière très personnelle, mais mon épouse souhaiterait qu'on fasse des voyages ensemble. Je n'aime pas excessivement voyager, il faut dire que je n'ai pas beaucoup de loisirs. Et elle m'avait souvent demandé, mais si tu devais faire qu'un voyage, où voudrais-tu aller? Je lui avais dit en Égypte. C'est-à-dire que vraiment une civilisation que je vénère tout particulièrement. Et comme il se trouve que c'est mon anniversaire dans quelques jours, elle m'a offert comme cadeau d'anniversaire ce voyage en Égypte. Donc ça répond, je crois, à votre question. Mais sans doute pourrais-je y répondre de manière plus approfondie lorsque je reviendrai, si je reviens, si je ne meurs pas de la maladie du légionnaire entre-temps, si l'avion ne tombe pas, si on n'est pas tué par des terroristes. Mais pour redevenir plus sérieux, je crois que on a été un peu marqué, c'est vrai, par cette civilisation. C'est vrai quand même qu'il y a un certain nombre d'images qui sont dans notre esprit, les pyramides, les dessins, le polythéisme, etc. Mais j'ai tendance à penser quand même que cette civilisation nous reste fondamentalement étrangère. Alors que le Christ s'y soit réfugié, c'est une chose, la Bible le dit. Qu'il en ait recueilli un héritage particulier, je sais que certains le disent, ça reste à prouver. Pour Moïse, c'est sûrement vrai, et qu'il a été marqué par la civilisation égyptienne, c'est le rôle qu'il a joué dans les Saintes Écritures, pour le Christ, ça reste à démontrer. En tout cas, moi, c'est une civilisation à la fois admirable, un peu comme la civilisation Inca, qui a un côté admirable, mais qui nous semble étrangère. Je ne pense pas que quand on est au pied d'une pyramide, ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne pense pas qu'on se sente chez soi. Il y avait une question au fond, non? Non. Je suis très mauvais en géographie, donc il se peut que je ne l'ai pas mis exactement, mais enfin, je crois que c'est quand même une ville d'inspiration grecque. C'est la Grèce d'Asie Mineure, quand même.
Exactement.
C'est la Turquie actuelle.
Oui, absolument. Mais l'histoire de la Vierge qui est allée avec Saint Jean à Éphèse, c'est très, très discuté. Parce que lorsqu'on va à Jérusalem, on visite le tombeau de la Sainte Vierge. Et Saint Jean ne fait partie en Asie.
À Éphèse, on visite la maison de la Vierge aussi.
Après la dormition de la Vierge. Oui, mais enfin, ça, c'est d'après Catherine Emmerich.
Oui. Ça n'est, comme dit M. Labbé, ça n'est pas une question de foi. Très bien. Je vous avais dit par avance, je renonçais à toutes mes hérésies. Je commence, à la différence de saint Augustin, toute proportion gardée, bien entendu, je commence par les rétractationnes. Donc je retire cet aspect de mon exposé qui, je crois, ne met pas en péril le reste. Mais, M. Labbé,
en général, d'après les deux auteurs, Saint-Jean aurait quitté Jérusalem comme tous les apôtres lors de la persécution, donc ce serait réfugié à Éphèse avec la Sainte Vierge, et Saint-Jean aurait plus tard une date un peu inconnue, mais au plus tard lors du concile de Jérusalem. Et la Sainte Vierge serait morte à ce moment-là à Jérusalem.
Vous voulez dire que ce serait endormi? Simplement ce que... Bon, le fait est que si l'on admet, ne serait-ce qu'ils y aient passé un certain temps... C'est cet argument que j'avais lu et qui m'avait semblé d'assez bon sens, mais bon, je répète que je n'y suis pas particulièrement attaché. Le fait qu'il soit allé se réfugier en terre grecque, où on parlait le grec, ça donne à penser qu'il devait s'exprimer en grec. Autrement, ils auraient pu aller se réfugier, par exemple, ou en Égypte, ou à Rome, ou ailleurs.
Mais à l'époque, le grec était la langue internationale.
C'est vrai. C'est vrai, c'était la langue des gens cultivés. Cléopâtre, par exemple, elle ne parlait pas le latin, elle considérait que c'était une langue barbare.